Bonjour et bienvenue au Jeu de Pierre 2008. Nous allons parler de deux genres littéraires différents mais finalement assez proches, le policier et la science-fiction. Pour ça, je suis ravi d'accueillir Marin Ledin, auteur de Polar, avec Modus Operandi, éditeur Diable Vauvert, et qui vient d'écrire Marketing Viral, Techno-Thriller Futuriste. Nous accueillons aussi Richard Morgan, auteur d'une trilogie Takeshi Kovacs, et dont le premier volume est un polar futuriste survitaminé. Et bien sûr, nous accueillons Pierre Bordage, auteur de science-fiction reconnue, qui a écrit l'année dernière Porteur d'âme, livre policier d'anticipation, qui a été finaliste au prix Polar SNCF. Pierre Bordage, c'est un peu une surprise d'avoir été nominé au prix Polar SNCF.
Oui, alors quand j'ai appris que le livre était retenu dans la sélection, c'était l'automne ou l'été, je ne sais plus, il y a trois saisons. Et quand j'ai découvert que le livre était présélectionné pour le prix Polar SNCF, je me suis dit, mais peut-être que finalement j'ai fait un polar sans... Parce que ce n'était pas du tout l'impression que j'avais eu en écrivant ce livre. Il se trouve qu'il y a un personnage de policier dedans, et que finalement, à partir du moment où il y a un personnage de policier, on peut considérer que ça rentre dans la grande catégorie du polar, mais ce n'était pas vraiment mon intention de faire un polar. Donc j'ai découvert aussi que le livre était chroniqué sur certains sites qui n'étaient pas habituellement chroniqués, c'est-à-dire les sites consacrés aux thrillers et voilà.
Vous avez fait beaucoup de recherches de prendre la préparation?
Alors oui, parce que n'ayant jamais eu de personnage de flic avant ce roman, je savais pas du tout comment fonctionnait la police nationale, et encore moins la brigade criminelle. Il a fallu que je sais pas comment ils étaient armés, de quoi ils étaient armés, leur plan organique, comment ils fonctionnaient. Donc il a fallu que je fasse des recherches d'abord sur le fonctionnement de la police, de la brigade criminelle. J'ai découvert des outils qui fonctionnent en équipe de 6, avec un premier équipe de 2, etc. De la façon dont je savais pas comment était menée une enquête, d'instruction de ce côté, mais je ne connaissais vraiment rien dans ce domaine-là, donc il a fallu effectivement que je me renseigne et que j'aille puiser des informations. J'ai eu un coup de bol inouï, c'est que sur Internet, j'ai découvert une conférence tenue par un ancien ou un formateur de la brigade criminelle qui donnait une conférence qu'on pouvait télécharger sur le net et qui expliquait le fonctionnement de la brigade criminelle. Donc c'est un coup de bol inouï, ça m'a invité même à le commissariat.
Marie Ledin, votre premier livre à publier est un policier. Votre dernier ouvrage, Marketing Viral, va faire un glissement vers l'anticipation. Quelles sont les influences qui vous ont marqué pour l'écriture?
Disons que, en fait, moi, ça vient des bras de la musique. Et notamment, parce que pour en citer un, je me rappelle d'un vieux morceau d'un groupe qui s'appelle Meatloaf, qui commence comme ça avec un dialogue entre un homme et une femme, et je ne me rappelle plus exactement en anglais déplorable, mais ça va être quelque chose comme On a hot summer night, would you open your throat to the world with the red roses, sans rien connaître un Meatloaf que j'écoute pas par ailleurs, moi ça évoque en fait d'un côté, pour moi c'est un très bon début de polar. Et avec le côté passionnel, il y a quelque chose de très érotique là-dedans, et souvent les polars, c'est souvent il y a l'idée de l'homme passionnel, il y a l'idée de sexe, etc. Et puis d'un autre côté, ça me renvoie au monstre, au loup, par exemple à la figure paternelle incestueuse du monstre dans Twin Peaks, qui rend mention de Laura Palmer, auquel elle identifie sa relation avec son père. Et du coup, il y a une espèce de mélange des genres entre le polar et ce qu'on va dire, on va dire le fantastique ou l'imaginaire. Et surtout cet aspect sale, en fait. J'ai entendu dans une conférence hier, en parlant du cyberpunk, la saleté, tout ce qui est crade, tout ce qui est laid, tout ce qui est moche, par opposition à ce que la technologie ou les aspects hyper codifiés du polar, hyper structuré, peut avoir de très hygiénique, de très rationnel, de très formel. Et ce qui est intéressant, et c'est peut-être l'un des deux points communs de ces deux genres, et moi ce qui m'intéresse, c'est justement cet aspect ça, cet aspect, aller remuer dans le fond, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est sang, tout ce qui est finalement les errances de l'âme humaine, quoi, et qu'on retrouve aussi bien dans un certain type de bouquin de science-fiction, que ce soit du cyberpunk ou même à la rigueur, dans la fantasy, mais peut-être moins. Et à la fois, on retrouve évidemment beaucoup dans le polar, et c'est un peu le point de jonction des deux pour moi. Et avec cet intérêt qu'a l'imaginaire, c'est qu'il apporte justement une dimension vraiment. Il permet l'ouverture du polar. Le polar, c'est quelque chose de très codifié avec ce que disaient les procédures. Alors même si on peut prendre certaines libertés avec les procédures judiciaires, à un moment donné, un inspecteur doit s'appeler un inspecteur ou un lieutenant, parce que les inspecteurs n'existent plus. Enfin, il y a tout un tas de codes comme ça qu'il faut respecter, qui sont finalement très très contraignants. Et dans le techno-thriller, on peut justement, en faisant un minimum d'anticipation, ça se passe dans le présent ou dans un avenir très proche, ou même éventuellement dans un avenir très très lointain, on peut prendre beaucoup plus de liberté, tout en restant dans un sujet qui peut être hyper contemporain, hyper d'actualité.
Merci. Richard Morgan, votre roman Carbone modifié est un policier qui se déroule dans un cadre de science-fiction. Le mélange des genres a été une volonté aussi de votre part?
Not exactly on purpose. I think like a lot of writers, I was just writing what I wanted to read. And I wanted to read good science fiction, and I also wanted to read good crime fiction. They were both areas that I had a great deal of interest in. So when I started writing, I didn't consciously decide to use those two genres, but those were the two that sort of bubbled up in my mind. That's where the influences came from. So I guess in that sense it was. But it was not a conscious choice, it was just something I did. And I also think that to some extent the detective narrative really has been the narrative of the 20th century. Now we're the 21st, but it's still going strong. There's something about the figure of the detective, however that's elaborated, it doesn't have to be an actual policeman or even an actual private detective, but the figure of the detective it's a very good way to carry a narrative, because as the reader is discovering the narrative in the same way the detective is leading you through finding out what's happening. So I think in many ways, you could make an argument, I'm not making this argument, but you could make an argument that all reasonably fast-moving fiction is in some way a kind of detective fiction, because there is a sense of a protagonist who is working out what's happening. And my sense of it is that increasingly, a lot of novels that I read, not only in genre, but also in the mainstream, although they don't necessarily have the label of crime fiction on them, that's essentially what they are. They are a form of the detective novel. I think it's kind of infused the way that we look at the world, at the modern world.
Le polar comme base d'écriture. Donc,
comme base d'écriture.
Oui.
Comme la structure sur laquelle se greffe la science-fiction.
Personnellement, pour Portardin, c'est l'inverse qui s'est passé, puisque mon premier projet est la projection de l'âme dans le corps. La possibilité de découvrir le monde dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc il y a une machine pour ça, et donc on est déjà dans un procédé de science-fiction, puisque cette machine, on ne la trouverait pas chez Sartre. Vous allez la chercher. Bon. Et donc, comme le personnage de policier est arrivé en second, mon idée était vraiment de faire un roman d'anticipation. Après, pourquoi le polar? Et c'est après qu'on analyse les choses, puisque sur le moment, personnage je l'ai vu et puis j'ai travaillé avec, c'est probablement parce que j'ai senti absolument le besoin, puisqu'on était dans cette espèce de frontière très floue, là où le corps, l'âme de changer de corps, et on ne sait plus très bien où le bien et le mal et tout ça, et que le personnage de vue finalement est celui qui se promène d'un côté ou de l'autre de la frontière du bien et du mal. Et donc on a une sorte de version, vision horizontale des choses, alors que le premier procédé d'anticipation était une vision verticale. Donc j'ai éprouvé ce besoin d'aller avec un personnage de policier, parce que ce sont eux, là, ils disaient, Richard, que c'était permettait de faire avancer un truc de celui-là. Ce sont eux qui vont visiter les coins, les zones, on parlait aussi par là tout de suite, les zones, les zones sociales, punk, cette salle noire, et ce sont ces personnages qui sont là-dedans. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'utiliser un personnage de que je n'avais jamais fait avant. Mais après, qu'est-ce que c'est une créature de polar? Je ne saurais pas. J'ai pas eu la volonté de faire un polar, donc je ne peux pas dire que j'ai utilisé une grille ou un schéma narratif de polar. C'est simplement que ces mots sont greffés sur un projet qui était plutôt un projet d'anticipation au départ.
Il faut donc aussi une ouverture à un autre lectorat, Marlena.
Non, bah dans mon cas, c'est de, en l'occurrence Marketing Viral, c'est le deuxième roman, donc j'en suis pas là. Déjà que je le trouve, mon lectorat. Non, l'idée c'est vraiment de poursuivre. En fait, c'est deux romans très différents, hein, qui est plus catalogué polar, on va dire, parce qu'il y a un flic, et l'autre qui est plus catalogué techno-thriller, mais dans le fond, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est du roman noir, quoi. C'est je peux permettre une certaine forme de critique sociale en travaillant sur des objets. Sur le premier roman, c'était travailler sur la manière dont fonctionne un peu la psyché, comment l'individu, quand il est confronté à une situation, en l'occurrence une situation d'enfance martyrisée, comment il interréagit avec son environnement et comment il arrive à gérer cette situation. Et dans le marketing viral, c'est plus un rapport au corps et comment la technologie et à travers elle la société investit le corps d'un individu. En l'occurrence, c'est un cas qui parle des bio et nanotechnologies. Et donc avec le prétexte d'un virus bio et nanotechnologique, comment le corps est traversé finalement par des logiques sociales qui lui échappent un petit peu, et voilà.
Le roman policier a toujours été éminemment social. La science-fiction s'en approche aussi. En tout cas, les interrogations de ces deux littératures sont finalement assez proches.
Yeah, I think, again, coming back to what I was saying about the detective narrative, one of the interesting things that has defined the 20th century is we've kind of run out of frontiers. There isn't really anywhere on the planet that is unknown anymore. And that is a relatively recent thing. In fact, if you want to talk about some parts of Papua New Guinea, these places were unknown until 1970-something. So, but basically, the 20th century has seen the end on any external area on the planet that we can't go to, that we can't deal with. And the space race has kind of failed as a frontier concept. It's become very clear that space is very hostile and not really a place you can go and carry on human existence very easily. And I think what's happened with that is, yeah, we've turned inward. And the frontiers have now become the inner frontiers, where exactly the soul begins, what's the difference between mind and body. Death, these social and society as well, obviously, the places that where once you would have a cowboy riding out into an unknown territory, you know, the American West, and a place that's not been explored. Now, the kind of unexplored places, the places you take your audience in order to give them the thrill of something fresh, something new, those places are within our own cities, they're within our society. And the detective, again, is a character in whatever guise whatever hat he's wearing. He is a man who goes into the places that we as the readership don't go. And yes, that has to be a social narrative, because there's nothing else left. There's no colonial narrative left anymore, so that by definition the unknown, the dangerous, the edgy elements of our existence are within our own society. They are the levels of society where society doesn't work, where justice, order, law, these things break down. And so by definition, it has to be a social narrative, because it's examining a frontier that is social in itself. It's a conceptual frontier. It only has to do with the way that different areas of humanity live, not to do with covering geographical territory. Does that answer the question?
Oui, merci. Disons que je peux rebondir, bien sûr. Il me semble qu'il existe encore une narration qui serait quelque part coloniale, mais qui est plus de l'ordre de la colonisation économique ou de la colonisation marchande, on va dire, et qui est quelque chose qui est difficile à retranscrire, que je trouve difficilement
pour aller vers les biotechnologies, ce genre de choses.
Alors, il y a les biotechnologies, mais je pense tout simplement au système économique dans lequel on vit et la colonisation d'endroits dans le monde qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'était pas encore forcément capitaliste, par exemple, on parlait du système économique actuel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à retranscrire en littérature, quoi, que ce soit en science-fiction ou en polar. Donc du coup, forcément, on se tourne vers une narration qui est plus une narration psychique ou une narration sociale. Voilà.
Another interesting thing is there's a writer called Louise Welch. I don't know if anyone's heard of her. She wrote a fantastic sort of crime novel called Cutting Room. And it's a story set in Glasgow. Very phenomenal book. I recommend it highly. It's a very good novel, Cutting Room. But I saw her speak a couple of years ago, and someone said to her, "Oh, your books always seem to have a lot of jeopardy. Your characters always seem to be at risk and in danger. And you know, I'm wondering why you write that kind of literature." And she looked at the woman who'd asked the question and said, "Well, that's the only literature I'm really interested in. If my characters are not in death jeopardy, why am I reading? I can't get interested in a narrative in which there is no risk." And this is where the issue of frontier comes down. And also, if you're telling a dynamic story, you do need a certain amount of, for want of a better word, violence. It doesn't have to be actual physical violence, but there has to be a conflict. There has to be some kind of dynamic struggle going on. And again, these are battles that are being fought, yes, at the economic frontiers of our societies, at different social levels and so forth. And again, you need a hero, but not a hero like Odysseus, you know, who is going to go out and find curious monsters in far-off lands. You're looking for a hero who can cope with the interfaces between these battling areas of society, these strata of social and economic conflict. So I think, in a sense, by definition, if you're interested in a story in which something happens, you're going to need some kind of detective to carry that narrative. And Raymond Chandler once said, when you're telling a story, if in doubt, send a man with a gun through the door. And there's a certain truth to that. We like that, you know? Your heart picks up the beat when a guy comes through the door with a gun. Oh, shit, what's going to happen now? That, I think, is endemic. It's absolutely axiomatic. It's a very deep part of the whole of 20th and now 21st century, certainly popular fiction, and to an increasing extent literary fiction as well, because the literary fiction is following the lead of the genres, science fiction, crime fiction, and so forth. Literary fiction is always late, and literary fiction is coming behind these genres, seeing the potential, seeing what can be done, and borrowing from that, which makes me feel very pleased.
C'est marrant parce qu'hier on parlait sur ce même plateau, on parlait de science-fiction, d'éclatement des genres, et la question se posait sur pourquoi les mondes sont si violents, pourquoi les mondes sont si noirs, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des mondes pleins de roses et de fleurs et de parfums. Et Henrik vient de répondre à la même question qu'hier, posée exactement dans le même terme, c'est pourquoi est-ce qu'un héros doit se lever à un moment, c'est parce que le monde va mal. Et effectivement dans les polars, et aussi bien dans les polars, et ça qui revient à la question tout à l'heure sur le monde. Polar et science-fiction, on est bien dans des mondes qui sont dans le genre comme le disait Richard, qui ne vont pas forcément bien, et donc il y a la nécessité d'avoir un personnage qui va aller là-dedans pour soit essayer d'établir une harmonie, dans le cas le meilleur, soit essayer de découvrir ces mondes-là, au moins de les explorer. Donc il y a une exploration là de même qui est très importante dans Polar, et aussi dans la science-fiction, on est bien sur la même registre d'art. Je dirais plutôt la science-fiction d'anticipation, c'est-à-dire là on rejoint Polar et ça.
Vers l'émergence d'une transfiction.
Oui, c'était aussi la conclusion du débat d'hier, effectivement, on était tous les deux. effectivement, on est dans les émergences d'une transfiction, c'est-à-dire qu'on va puiser à droite, à gauche, dans différents types narratifs, pour essayer de mieux faire ressortir ce qu'on a envie de dire.
La littérature actuelle semble donc s'adapter vraiment aux contingences extérieures. Et donc, toute l'émergence d'une transfiction qui est à même de mieux définir la réalité.
Parce que peut-être que notre réalité se complexifie, que la technologie a tendance à nous prendre des vitesses, qu'on n'a plus tellement le temps de poser des réflexions éthiques sur les choses, par exemple de technologie ou des nanotechnologies, c'est des choses qu'on ne voit pas et qui avancent à toute vitesse quand même, et qui sont infiniment puissantes, invisibles, infiniment puissantes. Donc on utilise des fictions, effectivement trans-fiction, pour essayer de décortiquer cette espèce d'accélération des choses.
Paralazard, vous avez notamment beaucoup écrit sur les nouvelles technologies, sur les nanotechnologies, sur les virus marketing. L'utilisation du policier et de la science-fiction est parfaite pour justement définir ces nouvelles technologies.
C'est-à-dire que ça revoit un petit peu ce qu'on disait là, c'est-à-dire que la technologie, elle a une fonction qui est un petit peu de lisser les choses. La réflexion technologique ou la réflexion, même la réflexion scientifique d'une certaine manière, elle a tendance à lisser un petit peu les choses et à regarder sous un certain angle, ce qui fait qu'on va gommer par exemple tout ce qui est rapports sociaux. Et ce que permet justement le polar ou la science-fiction, peut-être plus la science-fiction d'anticipation, c'est justement, ou le cyberpunk, c'est justement de réintroduire à travers un personnage, à travers un héros, qui va se balader dans, en général, des couches sociales, on va dire plutôt, enfin, qui va jongler entre des hautes sphères, avec toutes les théories du complot, et puis des sphères tout à fait en bas, avec les drogués, avec, enfin bon, voilà, tous les clichés du genre, et qui justement permet de réintroduire ce qu'on connaît nous dans la vie réelle, qui sont justement les rapports sociaux, avec l'idée de classe, même si c'est une idée un peu vieille, pour certains, et donc de réintroduire finalement du réel. Quand on dit réintroduire de la saleté, c'est pas forcément de la saleté, mais c'est tout simplement ce qui existe, c'est-à-dire à la fois des choses de jolies, les fleurs dont tu parlais tout à l'heure, et puis aussi tout ce qui est propre à l'âme humaine, quoi, qui est tous les questionnements. Bon, dans le polar, on a tous les thèmes de la jalousie, tous les thèmes de la passion, tous les thèmes de, je sais pas moi, gros classique en ce moment dans les thrillers, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est massacre en série, etc. Et puis d'un autre côté, on a tout ce qui est... c'est vraiment cette idée de casser un peu cette logique hygiénique. Moi, ça me fait penser un peu au 120 journées de Sodome, où on a d'un côté un regard hyper clinique sur des choses absolument atroces, donc très très sales, très moches, et après, un regard très très clinique, c'est décrit de manière très très froide. Finalement, la science, que ça soit dans la science-fiction, enfin, la technologie, ou que ça soit dans le polar ou dans le thriller qui est très à la mode aujourd'hui, avec toujours des experts, des scientifiques, qui ont un regard très très froid, très, très raisonné, très cartésien sur les choses, on finit par lisser, par donner un aspect hyper clinique aux événements, alors que dans le fond, ça se passe pas du tout comme ça, ou pas seulement, quoi. Donc c'est vraiment un regard sur ces événements-là, et ce que permet le polar et la SF, ou en tout cas le mélange des deux, c'est justement d'explorer la réalité qui est faite d'irrationnel, qui est faite de non-maîtrise, etc. Et j'en profite pour donner l'exemple, justement, un exemple de cette hybridation qu'on crée. Il y a une revue qui s'appelle Black Mamba, qu'on trouve, je sais pas si vous pouvez en parler peut-être plus que moi, qui justement joue sur, qui fait le rapprochement entre le fantastique, la SF, le polar, etc. Et l'écrit et l'image, et qui permet justement de montrer à quel point ces genres finalement sont très très proches et vraiment pas si peu raisonnés qu'on pourrait le croire.
Oui, merci. Mais écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser ?
Une question pour Richard Morgan, en fait. Dans Carbone modifié, il y a aussi une dimension assez importante sur toute la réflexion philosophique, qu'est-ce qui définit vraiment un être humain, est-ce que c'est en copie, on est encore humain, etc. Est-ce que c'est des choses que vous aviez pensées au préalable ou qui sont venues au moment de l'écriture? Parce que moi, j'étais très frappée en lisant le livre qu'il y avait ce côté à la fois d'envie de tourner les pages pour savoir la suite, et puis de temps en temps, de s'arrêter en disant « Mais oui, au fait, à quoi ça vous amène tout ça, quoi ?»
Okay, I think one of the things that has depressed me about fiction generally, and especially I think movie fiction. I'm a big movie fan, and my books are very strongly influenced by film. One of the things that has upset me about the way that fiction has gone in the last 20 years, really, I blame Ronald Reagan, and that's since 1980, is that it seems we're being forced to make a choice. You can either have exciting, dynamic fiction, what I was talking about before, that a man comes through the door with a gun. But if you have that, you have to switch your brain off. And, you know, when you go to the cinema, you leave your brain at the door, and you expect the film to be stupid, you know. But it doesn't matter because there's a lot of explosions. Or you can have a deeply evolving philosophical and intelligent narrative, but nothing fucking happens. And there are a lot of movies coming out of the European movie making tradition where the worst thing that can happen is that a couple get divorced. And that just does not work for me. You know, that is just too fucking boring as subject matter. I don't care. You know, I need more risk. So my feeling has always been, why can't you combine the two? We used to do this. If you look at American political thrillers in the 1970s, 3 Days of the Condor, for example, or Scorpio, or a whole series of these movies, it is possible to combine a high-velocity story and excitement and risk, danger for your protagonist. It's possible to combine that with an intelligent approach. And I'm hoping that I'm trying to feed the stomach and the head. I want people to enjoy reading the book at an emotional, a visceral level. And then afterwards think, that's an interesting question. I think it should be, a full meal. Not just the choice of, having emotional, visceral pleasure or having an intellectual agreement. And I think, unfortunately, a lot of our entertainment sectors separate one from the other. You can have your intellectual address, but at the cost of not having anything very interesting happen in your fiction. Or you can have very dynamic fiction, but then you can't have anything intelligent to say in it. That depresses me. Everything I write really runs against that. So I'm glad you liked it. It means I'm doing something right, I guess. Does that answer the question?
D'après vous, la littérature contemporaine a-t-elle échoué pour décrire le monde actuel? En tout cas, est-ce que le monde, la littérature classique, ne répond plus malheureusement aux exigences actuelles?
C'est difficile de dire ça parce que je pense qu'il y a encore des livres de littérature sans genre qui essaient de décortiquer le monde aussi, qui arrivent probablement à... On ne peut pas tout simplement... forcément tout mettre dans la même famille en disant il y a la littérature contemporaine c'est nul et puis il y a que la littérature de genre qui soit vraiment intéressante. Donc je pense que ça dépend vraiment des auteurs plus que des gens, parce que je pense qu'il y a des mecs qui font de la science-fiction qui sont hyper chiants et qui font des polars qui sont très pénibles aussi. Donc c'est pas lié au genre, mais c'est plutôt lié à mon avis à l'auteur. Moi je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est raconter une histoire, donc c'est le sens du merveilleux, le sens of wonder, qui est la première chose, la priorité à mon avis. Le deuxième arrive par surcroît, c'est-à-dire la réflexion sur le monde qu'on traverse, sur le monde qui nous entoure. Ça, c'est la deuxième chose, je pense qu'elle est liée. Mais je vais d'abord garder cette idée de narration, ensuite la réflexion, et enfin l'interrogation philosophique, et en troisième, elle sous-tend tout ça. Mais si, effectivement, si on ne fait que l'interrogation philosophique, donc on fait des bouquins de philosophie, donc ça c'est un genre particulier, si on fait des bouquins d'inflexion sur le monde, on fait des essais sur le monde, etc., c'est un auteur particulier. Mais la fiction, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec Richard, quoi. Vraiment, moi j'essaie aussi d'être le plus complet possible dans la fiction, c'est-à-dire à la fois raconter une histoire passionnante et amener la réflexion par-dessus.
Yeah, I do think... I'm going to be a little iconoclastic here. I do think that modern literary fiction has failed the challenge of modernity, I think. We live increasingly in science fiction all the times, and, you know, like in my pocket I have a small white box that contains all the music I own. I still don't really, for me that's still science fiction. And this is an old iPod I'm talking about, not a new one. New ones are even more impressive. And I think there's been a genuine failure to really understand that things are moving very fast now, and that society, human society is changing very rapidly. And I think generally mainstream writers don't seem, there's a kind of anti-geekdom, if I can put it that way. So there's a refusal to be enthusiastic about the changes, about the new technology, the way things are changing. Literary fiction, general mainstream fiction, seems to be hiding from that. It seems to not want to engage with those facts. And I think the classic example is Kazuo Ishiguro's novel Never Let Me Go. Now, I like Ishiguro. A couple of his novels I think are wonderful pieces of work. Never Let Me Go is an appalling piece of work. It's a dreadful piece. And I think it represents a failure of a mainstream author to address the modern world. Because this is a story supposedly about clones and cloning for spare parts. And it's a story that's been told before in the science fiction universe. It completely fails to convince, because he doesn't examine any of the implications of what he's talking about. There's no examination of what kind of social structure you would need, what kind of enforcement systems you need to make this society work. How would this be controlled? He has apparently in an interview said, yeah, well, I'm not really interested in science fiction. It's like, well, don't fucking write a science fiction novel then. You know, if you want to write about the contemporary world, you're going to have to learn to like science fiction, you know, because if we live in a science fiction world, and I think this is the time when within genre we can actually take the lead here and say to these guys, look, we know how to do this, you know, you need to watch what we do, see if you can do the same. And I think there's a great resistance in modern literary fiction to that. They do seem to fail very often. And it's a fear of, I think it's technophobia, it's a fear of what technology is doing to human race. It's the Frankenstein complex. And you'll never address the modern world unless you embrace the modern world. You have to. In the way that Henry Miller embraced sexuality in order to write his books, you can't have a puritanical fear of sexuality. You can't write a book that is sexual. Like something like Tropic of Cancer, you can't write that book unless you embrace your subject matter. Similarly, you cannot write about the modern world unless you embrace wholeheartedly that modernity, and that means the technology and it means the rapid change. I think outside of genre, there is a failure to do that.
Je voulais juste dire qu'on voit quelque chose se développer actuellement dans la littérature française, qui sont des auteurs qui viennent du mainstream, de la littérature générale, et qui font appel à des auteurs de science-fiction. On a eu Céline Minard avec les derniers en espèce, je crois.
Oui.
On a une fille qui s'appelle Lolita Pi, qui avait fait une sorte de sous-industrialisme, qui s'appelle Crépuscule Hitler, qui est une sorte d'anticipation. On a eu Jean-Christophe Truffin qui fait Global. On a donc Welbeck, qui est considéré comme un auteur de littérature générale, qui fait un essai pur avec Possibilité de Nil, qui en avait fait aussi un petit peu avec les particules élémentaires. Donc on voit bien que aussi la littérature générale commence à se nourrir un peu de ces genres, commence à puiser un petit peu dans ces genres, ce qui pour moi est un signe plutôt encourageant du fait que ça y est, on commence à s'emparer des codes des genres pour pouvoir exprimer des choses. Donc c'est-à-dire que le genre est déjà commence à sortir de son propre système, de son propre ghetto. Donc ça pour moi c'est très encourageant.
La science-fiction est en train de contaminer après le...
Oui, mais j'ai raison, à un moment, ils sont obligés de s'emparer de ce genre-là.
It's from my translation here, it sounds to me as if modern French literature is in much better shape than modern English literature. Because what you're describing here is simply not happening at the same level in the English-speaking literary world. So I'm very happy for you.
Merci. Dans le public, une autre question?
We're going home tomorrow. Last chance.
Glasgow.
You live in Glasgow, yeah?
Oui. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure à propos du, en comparaison de la littérature avec le cinéma, entre l'intériorité de certains films hein, et la richesse de la littérature dans sa variété. À quoi c'est dû aujourd'hui? Est-ce que c'est juste dû à un public, une différence sur le public ou autre chose, dans votre sens?
I think partly it has to do with a very puritanical attitude in intellectual life, in academic life. There is, and I think this is something deeply buried in. I think this is something very deeply buried in Western culture, a distrust of pleasure. And in fact, Michael Chabon has written very eruditely on this subject. There is a sense that there's something not quite worthy about pleasure. So if you're reading a book and what you're getting from it is a thrill, yeah, or you're watching a movie and what you're getting from it is emotional excitement, that is in some way cheap, not worth anything. And that what you should be looking for is a kind of cold, intellectual appreciation of the skill of the filmmaker or the writer. And we actually have a joke description of this. We call it chin-stroking film, which is to say it's films for people who sit in the cinema going, And I think this is the problem, that there is a division between people who take pride in non-feeling. They take pride in detaching from the gross emotional response that a piece of fiction may give you and looking at it in an analytical fashion. And then there are the other people who largely are the sort of what you would call, I guess, the proletariat, who they just want to go and see 2 hours of entertainment or something that's enjoyable. And they've been told, wrongly in my opinion, that if there are ideas in it, then it can't be exciting. And you see this especially in the American film market, that if you're making a movie that people will be excited by, yeah, well, those people are too stupid to understand an intelligent story. This is just not the case. So I think it's cultural, and I think it's deeply, deeply buried, and very hard to fight, because certainly on the intellectual side, no one wants to admit to that, no one will accept that. But to be honest with you, you should Google Chabon Pleasure Literature. And he wrote an article on this recently for the Los Angeles Times. He expressed this far more eruditely than I can. But that's basically the problem. We have a problem with pleasure in Western culture.
Pierre Bordel, vous avez un terme que j'aime beaucoup, qui est le vertige.
Oui, le vertige, moi ça c'est l'effet vertige, je crois, par les instructions que je cherche, moi, en lecteur, et que j'essaie de poser aussi à mes lecteurs. Je voudrais dire au cinéma, il y a un truc au cinéma qui s'appelle le producteur. Et celui-là, c'est un mur. C'est-à-dire que si vous arrivez avec des projets super ambitieux, qui font réfléchir, qui sortent des canons traditionnels, blockbuster, vous arrivez à vous dire non. Non et non. Et donc, on n'a pas d'argent pour faire le film. En France particulièrement, enfin, j'ai fait l'expérience assez longtemps, essayer de monter un film de science-fiction différent, c'est un parcours du combattant. Il faut savoir ça. Et même si on arrive au bout du parcours du combattant, on va se faire derrière, on va avoir tout un tas de blocages pour faire certaines scènes, pour tourner certaines scènes. Et donc c'est hyper compliqué un livre où vous avez entière liberté. En plus, rien ne remplace la relation intime entre un texte et son lecteur, alors qu'au cinéma, on est une foultitude à partager la même image, ce qui fait que, évidemment, il y a toujours un peu plus petit dénominateur commun que chercher le producteur en disant « moi, je vais attirer le plus de monde possible dans les salles ». Et c'est hyper réducteur, et encore plus maintenant en France, je ne sais pas comment c'est en Angleterre, mais en France, c'est la télévision qui est presque le cinéma. La télévision ne cherche que quoi à remplir ses grilles de prime time, le dimanche, le lundi, de passer des films, grand public. Donc, monter des films ambitieux sur le plan de la réflexion ici en France, c'est un parcours de combattant, c'est incroyable la manière dont ça fonctionne.
I have a great story about that, actually. I remember seeing a horror movie about 3-4 years ago. Not an especially good horror movie, but enjoyable. It's about a family who have a car crash and find themselves on this strange road where all sorts of It was fun. It was enjoyable. Nothing special. I don't recommend it, but it was a good. I enjoyed my 2 hours. It was made by a team of French director and a French producer, writer.
Anyway,
and when they interviewed these two French guys, they said, and said, why did you come to America to make this movie? He said, well, we went to the funding bodies in France, and we said, we want to make this horror movie. We explained the story, and they went, okay, so it's an ironic examination of the breakdown of the bourgeois family. And they said, no, it's just a horror film. And it's, well, fuck off out of my office, I'm not giving you any money. And suddenly they took it to Hollywood, and Hollywood said, so is it scary? Yeah, we have this really horrible thing there. Okay, that's cool, we'll give you the money, no problem, go. So that there is a prejudice in, we're accustomed to attacking Hollywood for being cheap and not understanding more complex ideas in movies, and that's a fair criticism. But also I think in Europe there is the reverse prejudice, where something that's just a good horror movie or a good thriller will very often not get any kind of funding, as it's been described here, like here, but because again it doesn't get through the filter, because the filter, no, this must say something deeply meaningful about the fall of Western civilization as related to cuisine. No, it's just a thriller, that's it. That won't wash. It's a lack of vision in both cases, I think, and this refusal to say you can do the two things at the same time.
Une sorte de nivellement par le bas. Un nivellement par le bas.
Sur le cinéma, oui, certainement. Ça, c'est sûr. Et encore plus la télévision, quand vous démontez des projets différents à la télévision, des projets de gens en France, c'est voilà, le discours est absolument incroyable. C'est, parce qu'on nous dit, oui, on cherche des séries différentes, voilà, on a des Américains, c'est des trucs super, de la science-fiction, et proposez-nous des histoires de science-fiction, vous qui êtes un auteur de science-fiction, et on propose une histoire de science-fiction, et on dit, je voudrais pas qu'il y ait votre science-fiction dedans, quoi. Ça serait bien peut-être de revenir au feuilleton, vous savez, avec les personnages, la famille, tout ça. Et voilà, donc tous ces projets sont nivelés par une sorte de... Je pense que les producteurs se plaignent en grand partie parce qu'eux, ils imaginent que c'est ça qu'attendent les gens, alors que peut-être que si on ouvre des portes différentes, les gens vont adhérer et qu'on va créer d'autres... on va ouvrir d'autres portes, mais on n'a jamais la possibilité parce qu'il y a un blocage culturel très fort.
Yeah, and again, another interesting thing there about science fiction on TV. A little while ago I was interviewed for a magazine and I was asked what TV was I watching. And I don't really watch TV, but I do buy DVD collections. And I've been watching The Wire, I don't know if you have this in France, yeah, which is the best TV series ever made, in my opinion. It really is a fantastic piece of drama. It's like Dickens for our times. And the interviewer said to me, that's right. Are you watching any science fiction? And he said, have you seen the new Battlestar Galactica? Have you seen Heroes? I mean, I know that these are not in the same league as The Wire, but they're quite good. And my response was, well, I haven't actually seen them, but surely we should be asking ourselves as genre consumers, why are they not in the same league as The Wire? Why do you have to apologize before you ask if you see them? Why are we not capable of making a science fiction series which does have the same quality level and the same human characterization, the same address to individual characters as something like The Wire does? And The Wire, of course, is a polar, it's a detective story, among other things. And that is a question I still don't have an answer for. I don't know why science fiction TV seems so frightened or also unable to produce that level of reality, that level of social address. It seems that when social issues are dealt with in science fiction TV, they have to be dealt with in a kind of costume, like a pantomime version. I find it very strange. I don't, we need the science fiction equivalent of The Wire. I would watch that. It doesn't seem to be out there, at least not yet.
It's absolutely not in the cap. Une autre question? Écoutez, merci en tout cas à Richard Morgan, Pierre Bordage et à Marin Audin.
Cédric Pédavant.
Si. Cédric.
Merci, on verra vite.
Et tout de suite, à l'espace librairie, à l'étage, vous allez retrouver donc Richard Morgan, Pierre Bordage, Marin Audin et Jeff Cole. Merci.